Bonjour à tous, on est actuellement le 6 novembre, nous sommes à Lisieux en Bulle, donc salon de la bande dessinée, du savon, tout ce qui est en fait est relatif à la bulle. Je suis en présence de Séverine Dalla qui travaille à la maison d'édition Vert-Pomme, enfin c'est sa maison d'édition, Benoît Noël des éditions BVR et Isabelle Pelloin des éditions Les Petites Manies. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler de l'édition en tant qu'éditeur indépendant.
Merci, merci à vous.
Je voulais savoir un peu, selon vous, comment se porte le marché actuellement de l'édition en tant qu'éditeur indépendant ?
C'est assez fluctuant. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que comme il y a eu pas mal de salons d'annulés, on peut pas trop... On ne sait pas trop, je veux dire, d'habitude il y a les salons toute l'année, mais avec toutes les annulations, on ne voit pas bien. Donc, la semaine dernière, j'ai fait un salon qui a marché autant qu'en 2019. Je veux dire, ça a été la même chose. Donc, ça s'est bien passé. Au mois de septembre l'année dernière, j'en avais fait un qui avait très bien marché, mais c'était le seul que j'ai pu faire dans l'année. Alors, est-ce que c'est parce que les gens, justement, ont pu profiter d'un moment où on était un peu dans la brèche d'entre-deux confinements. Je pense que les gens étaient contents de voir des choses, de sortir. Mais après, voilà. Donc, moi, je fais beaucoup d'éditions de livres d'artistes. Ouais, on peut dire que ça va. Ça va.
Vous êtes d'accord avec...
Alors moi, pour Vert-Pomme, je suis dans l'édition jeunesse. Et ma ligne éditoriale est assez particulière, il y a un côté un peu pédagogique. Donc je pense que c'est ça qui sauve un petit peu les choses, à savoir que même en temps de crise, de toute façon, les gens achètent toujours des livres pour les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié pendant les 18 mois écoulés. Et moi, j'ai pas mal, heureusement d'ailleurs, de petites commandes d'école ou de bibliothèque, justement par rapport à ce côté pédagogique. Donc même si ma diffusion dépend énormément des événements publics, des salons, etc., il y a quand même quelque chose, une sorte de base en fait qui sauve un petit peu les ventes. Hein. Donc voilà. Mais je pense qu'on s'en ressent tous quand même de ces 18 mois de situations délicates, événements annulés ou reportés. Enfin, pour les petites structures, je pense que ça a été quand même un coup assez dur.
À BVR, on fait surtout des livres liés au patrimoine artistique normand ou de bouche normand, type le Livaro, Cidre et Calvados en Pays d'Auge. Et on s'en sort, nous, déjà, les ventes Internet. Je veux dire que ça a atteint... qui est Covid ou pas, ça n'a pas changé, ça n'a pas freiné non plus nos ventes. Et par ailleurs, on a fait des festivals, donc certains, mais pas forcément que des salons du livre. On a fait un salon du livre, un des tout derniers, par exemple, à l'automne, dans un champ. Mais voilà, et ça a très très bien fonctionné. C'était à l'initiative de la ville de Livaro. Et donc, on a fait plutôt de meilleures ventes que ce qu'on espérait, parce que je crois que les événements étaient devenus beaucoup plus rares. Donc, il y a eu un espèce d'engouement à l'automne, donc justement sur la résurrection de ces événements. L'autre salon qu'on a fait tout récemment, c'était à Pont-l'Évêque. Et à Pont-l'Évêque, de la même façon, on estime, bien travaillé. Donc, quand on dit bien travaillé, c'est-à-dire que c'était plutôt plus haut que ce qu'on pouvait estimer, même sur ce type d'événement, avant le Covid. Voilà. Et puis, il y a une troisième façon qui nous sauve, c'est d'avoir des lieux pérennes de vente. Alors, je prends un exemple. Par exemple, on a une BD sur Eric Satie, le musicien Honfleuret, et lequel musicien jouit d'un petit musée, Satie, à Honfleur, mais qui est toujours très, très fréquent. Quoi qu'il arrive, parce que la ville d'Honfleur de toute façon a un public captif de touristes, et par ailleurs ces maisons Satie sont assez drôles dans la présentation et donc de l'œuvre musicale de Satie. Et là, par exemple, des lieux comme ça où on vend précisément donc nos BD, depuis que ça a repris, ça fonctionne très bien. Alors il est vrai que pendant toute la période dite Covid où de fait les musées étaient fermés, là on a été pénalisés. Donc nous, les lieux où on a été le plus pénalisés de fait, c'est nos livres relatifs par exemple à Fernand Léger, l'artiste peint de Fernand Léger, lesquels livres se vendent normalement très très bien, notamment au Musée National Fernand Léger à Biot dans le sud de la France. Voilà, on envoie les livres donc là, par caisse. Mais de fait, pendant la fermeture du musée, là oui, on a été pénalisés. Et c'est la même chose pour le petit musée d'Argentan, par exemple Fernand Léger chez André Mar, où là aussi, donc, temps, voilà, durant le temps de la fermeture, là, on avait des ventes nulles par rapport à ce qu'on fait d'ordinaire, qui sont des lieux de vente très sûrs pour nous et intéressants parce que chaque année, c'est renouvelé, en fait, la commande. Et donc, évidemment, c'est précieux. Les lieux de vente comme ça, qu'on appelle nous pérennes, enfin voilà, mais qui sont de toute façon assurés sur des années, à telle enseigne que la bande dessinée Eric Satie, on avait fait un premier tirage de 2000 euros. De 2000 ex.
2000 exemplaires.
2000 ex, 2000 ex, je suis un peu dyslexique à mes heures. Et on l'a renouvelé, la tour récemment. Donc voilà. Donc on croit aussi très fort à ce credo qui n'était pas chez nous à l'origine de la bande dessinée, mais qu'on développe donc avec un jeune auteur en Fleuret. Et donc on vient de réemployer Bastien après sa donc biographie d'Éric Satie pour l'absinthe racontée par la fée verte, c'est-à-dire sous forme d'abord l'intérêt de la plante médicinale et puis ensuite de l'apéritif donc qui tire son nom de l'Artemisia absinthium.
Et donc finalement, vous avez évoqué les deux solutions, vendre par Internet et également, comme vous l'avez dit, via les salons. Qu'est-ce que vous pensez qui marche le mieux quand on est un éditeur indépendant? C'est plus miser sur la proximité ou au contraire, essayer quand même d'aller sur cette grande plateforme qui est le web et d'essayer de vendre via le web?
Moi, personnellement, ça marche mieux en fait en relationnel. Mmh. Sur Internet, je vends... mais pas énormément. J'ai mon site. Après, j'ai fait aussi le choix de ne pas mettre mes livres sur les plateformes comme Amazon. Voilà, donc ça, c'est un choix. Et puis, c'est vrai que je marche beaucoup avec les libraires. Après, c'est assez différent. Bah, je démarche directement les libraires aussi parce que je n'ai ni distributeur ni diffuseur. Moi, en fait, l'avis de mes livres... elle est beaucoup plus longue, je pense que peut-être pour les livres d'éditeurs, on va dire, classiques, entre guillemets, parce que je ne sais pas forcément, bon. Et c'est-à-dire qu'il y a des livres que j'ai faits, par exemple, en 2018 ou 2019, voilà, qui font leur chemin, et j'ai des commandes, peut-être des grosses commandes, mais peut-être deux, trois ans après, en fait. Les gens découvrent mon travail, alors c'est peut-être, justement, c'est peut-être un tort, c'est que... la communication n'est pas forcément très très bien faite, mais je ne peux pas tout faire en fait. C'est ça le problème. Donc, voilà.
Oui, c'est sûr que c'est un des inconvénients d'être en indépendant, enfin face aux grosses maisons d'édition. Forcément, comme vous l'avez même dit, Amazon, les endroits où, sur lesquels les gros marketplaces où on peut se faire connaître, c'est évidemment pas facile. Et en même temps, c'est aussi, si vous n'appartenez pas aujourd'hui à des grosses maisons d'édition, c'est généralement aussi des questions de valeur, je suppose. Et
la liberté n'a pas de prix.
Voilà.
C'est ça aussi, oui.
Et il faut... du coup, de fait, réussir à se différencier. Vous l'avez expliqué, Séverine, vous avez un peu cet axe de pédagogie,
oui,
de pédagogie, la
jeunesse. Oui, autour du développement durable et de l'écologie, de la nature. Et justement, à ce titre-là, les événements, les salons et les rencontres sont hyper importants parce que les gens sont justement curieux de ce que peuvent représenter les petites maisons d'édition avec parfois des lignes éditoriales très spécifiques. Alors que, en librairie ou sur le net, on est un petit peu noyé dans la masse. Alors que, justement, lorsqu'on peut les voir en direct, là, ils peuvent vraiment découvrir, prendre le temps de découvrir. C'est pour ça que pour moi, je pense que c'est très important. Et comme le disait ma collègue, parfois, les ventes les plus importantes arrivent plusieurs mois ou plusieurs années après, parce qu'il y a aussi le bouche à oreille, la transmission un petit peu des infos à partir d'événements ou de salons. Voilà, c'est pour ça que la coupure qu'on a subie est quand même, je pense, a eu des répercussions immédiates sur nos ventes 2020-2021. Mais ça va peut-être aussi empêcher certaines choses à plus long terme, quoi. Disons, les retarder encore davantage.
Comment vous faites, vous, Benoît et Isabelle, pour vous différencier dans votre maison d'édition? Quel est cet axe spécifique que vous avez décidé de prendre et quelle différence vous portez?
Tout simplement, on ne fait pas les livres que font les autres. On fait des livres tout à fait singuliers, à part que nous... auxquels on croit passionnément et on les défend. Alors, on fait quand même des efforts vers la presse. C'est vrai qu'on n'a pas toujours... alors, la presse locale, généralement, joue très bien le jeu. Et c'est le cas, d'ailleurs, le moment de remercier, effectivement, la couverture donc par l'Ouest France et par le Pays d'Auge, etc. Donc, de Lisieux en Bulle, de fait, qui a été très, très bien assumée et très bien faite. Mais voilà, c'est de faire... nous, on ne sait pas... je ne sais pas travailler pour, par exemple, les événements commémoratifs annoncés à l'avance. Je ne sais pas, le centenaire de Céline, de la mort de Baudelaire ou n'importe quoi. Donc ça, on ne le fait pas. Mais en revanche, on a un travail de fond et qu'on assume qu'on assume en amont, hein, c'est-à-dire sans rentrée d'argent, c'est-à-dire tout le travail préparatoire, éditorial, de texte, de rassembler l'iconographie. Mais comme on y croit passionnément, on finit par convaincre, de fait, sur le long terme. Et comme l'a très bien indiqué Isabelle, c'est des ouvrages de long terme, c'est-à-dire ils ne se démodent pas et voilà, et donc ils s'inscrivent dans le temps et ils finissent par trouver leur public. Alors je veux revenir sur Internet, c'est-à-dire que c'est pas... Il y a un avantage chez les libraires, de fait, depuis qu'il y a le catalogue Electre. Chaque libraire donc, peut repérer n'importe quel livre. Et donc, un client qui vient, qui a une idée un petit peu vague parce qu'il a entendu à la télé où c'est écrit par machin et tout ça, sur le catalogue Electre, de fait, n'importe quel libraire fait très bien son boulot et peut. Mais il se trouve que nous, on ne peut pas être présent ou connu partout et que Internet nous est quand même précieux. Alors, pour Amazon, par exemple, on est inscrit de force. Il faut savoir que, de toute façon, Amazon inscrit tout livre qui sort. Et donc, nous, on ne cherche pas du tout à vendre sur Amazon, on préfère travailler en direct, nos ventes donc sont meilleures et nos marges sont meilleures si on vend en direct, y compris donc si quelqu'un nous a commandé via Internet. Mais de fait, on ne peut négliger absolument aucun site parce que de toute façon, Amazon inscrit n'importe quel titre qui sort. Donc voilà, donc nous, on préfère que ce ne soit pas passé par Amazon, mais si le grand public donc a décidé de commander par Amazon, voilà, on n'a pas les moyens non plus de refuser. C'est notre diffuseur à nous, si vous voulez bien, donc, mais bon, enfin, je veux dire, pas seulement Amazon, Internet, voilà. Internet est le diffuseur qu'on n'a pas en réalité parce qu'on a essayé d'intégrer, parce que maintenant on a de fait des titres qui fonctionnent très très bien, d'intégrer donc certains diffuseurs, mais aujourd'hui ils ne prennent plus du tout. On a eu 10 refus à peu près donc pour intégrer des diffuseurs qui nous donneraient une audience au-delà de la Normandie et donc nationale, mais ils n'en prennent plus parce que tout simplement ils ont plein, une myriade de petites maisons et ils n'arrivent déjà pas à en défendre toujours les couleurs et donc ils ne veulent plus en prendre plus. Donc voilà, mais nous, notre destin nous va très bien d'être indépendant. Je le soulignais il y a un instant, la liberté n'a pas de prix. On choisit exactement ce qu'on veut faire, mais c'est vrai qu'on travaille quand même en fonction aussi. Par exemple, si on fait un livre, le Livaro, par exemple, le fromage, j'entends. Évidemment, on va voir les derniers producteurs de Livaro, on va voir la maison Grain d'Orge, on leur fait une édition collector. Généralement, voilà, ils sont tout à fait heureux d'avoir une édition collector pour leurs clients. Si on fait une exposition, je prends l'exemple d'un artiste femme, Marie Vassiliev, sur lequel il n'y a pas eu d'exposition institutionnelle par Beaubourg, par voilà, Marie Vassiliev, on se débrouille pour trouver un lieu à Rueil-Malmaison, de trouver un mécène qui est l'Institut français du pétrole et de monter contre vents et marées une exposition. Le livre du coup sert de catalogue et donc voilà, donc on crée l'événement en face et donc voilà, c'est tout un travail de fond donc d'accompagner effectivement la création et la sortie d'un livre.
Isabelle, oui. Vous voulez ajouter quelque chose sur la manière dont vous vous différenciez
Oui, alors après, moi je fais des tirages en édition assez limitée. Bon, j'ai quelques titres avec. J'ai juste deux titres où il y a 500 exemplaires. Mais moi je fais surtout des livres avec peu d'exemplaires. Donc effectivement, j'y mets un petit peu. C'est pas que j'y mets mes tripes, c'est un peu gros comme image, mais c'est vrai que je m'investis énormément. Je fais les tirages souvent moi-même en sérigraphie. Je fais toute la mise en page moi-même. Donc, et que ce soit pour. Soit si c'est moi qui écris ou si c'est moi qui illustre, mais aussi pour d'autres. Là, je viens de sortir un petit livre avec des textes de Philippe Bertin et des sérigraphies d'Agnès Leblon. Bon bah donc là j'ai beaucoup aimé justement de pouvoir travailler en trinôme, mais j'y passe voilà, le soir je plie, je coupe, je colle, j'ai fait les tirages avec l'illustratrice, enfin voilà, donc c'est vrai que oui, c'est un peu différent comme démarche quoi.
C'est vraiment un métier passion quand on en est à ce niveau d'indépendance quoi.
Ouais.
Et pour aller dans le sens d'Isabelle, en plus, elle fait des livres qu'il faut découvrir tactilement, parce que c'est des objets volumes.
Oui.
Et donc, ça se prête moins à la vente, je vais dire, via un écran.
Ben oui, parce que oui, voilà, des choses en tissu ou des petites boîtes avec dans lesquelles il y a des objets, des petits livres, des choses comme ça. Effectivement, ben, comme le corbeau aussi d'Edgar Poe, voilà, où c'est un pop-up. Bon, il y a le texte anglais-français, mais après, voilà, j'ai fait tout le pop-up en sérigraphie. Enfin, voilà, c'est vraiment des objets qu'il faut voir de visu.
Et qu'il faut prendre en main pratiquement pour en voir toute la richesse.
C'est de l'art plastique, visuel et littéraire. Quoi.
C'est des vrai. Petites boîtes éventuellement.
Bah, comme mes petites boîtes.
Voilà. Mais c'est pour ça que je tiens à voir Isabelle sur tous les salons que je fais. Parce que de fait, je sais que son travail ne peut se découvrir qu'ainsi.
Merci Benoît.
C'est sur cette note positive qu'on vous quitte. Merci beaucoup
à vous. Merci à vous, Victoire.